Alors, il faut dire que effectivement, il avait un avantage considérable au départ, c'est que c'est lui-même, il est un ancien chef d'État qui a assumé deux mandats dans son pays et qui a respecté la Constitution, donc en acceptant de partir au terme des deux mandats. Donc, il devait théoriquement avoir une légitimité et inspirer un certain respect de la part des dirigeants africains dont il est en quelque sorte le mandataire en tant que président de la Commission. Dans les faits, ça a été malheureusement, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il s'en va, ça a été, on est revenu aux pratiques d'avant, aux pratiques de l'organisation de l'unité africaine, où les chefs d'État considèrent le secrétaire général de l'organisation, donc le président de la Commission aujourd'hui, comme leur secrétaire, quoi, voilà, qui est chargé de transmettre. Disons d'appliquer leurs décisions et pas davantage. Évidemment, Konaré, avec son passé, son histoire personnelle, ne pouvait pas se limiter à cela, mais il a été beaucoup gêné. C'est vrai que quand il s'est exprimé au nom de l'Afrique, il l'a fait avec force, avec une liberté qui faisait que on ne pouvait que le respecter, parce que il n'avait, j'allais dire, pas d'intérêt particulier à défendre, sinon ceux de l'Afrique. Et je pense que, en tout cas, depuis longtemps, on n'avait pas eu pour représenter, d'un point de vue institutionnel, l'Afrique, quelqu'un qui ait effectivement une voix aussi importante que la sienne. Donc, à l'extérieur, probablement qu'il était très, très respecté. Le problème, c'est à l'intérieur du continent, dans les affaires du continent, où les dirigeants africains eux-mêmes ne respectent pas les institutions qu'ils ont mises en place, ils ne respectent pas les textes qui régissent cette institution et qui donc ont voulu ou ont été tentés à certains moments de lui contester son autorité.
Effectivement, très concrètement, on a bien compris qu'il n'avait même pas été consulté dans la gestion du dossier kényan, de la crise kényane actuelle, et il a manifesté son mécontentement.
Mais vous ne trouvez pas que c'est scandaleux qu'on envoie Kofi Annan comme, disons, le médiateur de l'Union africaine à Nairobi, sans que le président de la commission de l'Union africaine ait été consulté? Je pense que c'est inadmissible, mais ce n'est pas la première fois. Vous savez, quand il y a eu des événements violents et douloureux au Togo, à la mort d'Adama, il a été le premier à dire qu'il n'était pas normal que le fils du président se saisisse du pouvoir alors qu'il y a une constitution et des règles à respecter. Mais au bout d'un moment, les dirigeants africains, Obasanjo et quelques autres, lui ont tapé sur les doigts sans aucun respect des principes même qui régissent l'Union africaine. Je pense que tout cela explique aussi pourquoi il veut partir, parce que il pensait que ses pairs, ses experts avaient l'intention de constituer une union plus solide et plus crédible, mais il s'est aperçu que, en fait, c'est toujours le syndicat des chefs d'État qui se retrouve, quoi, et pas une union qui concerne les peuples, qui respecte les peuples.
Est-ce que c'est une preuve de plus que cette institution complexe a besoin de réformes et si oui, quelles sont à votre avis les plus urgentes?
Ben, je pense que l'Afrique est un continent, hein, 53 pays aujourd'hui, 53 États, même si certains sont considérés comme n'ayant d'État que le nom. Je pense que c'est des réalités multiples. On ne peut pas vouloir mettre ensemble tous ces États, toutes ces nations, sans qu'il y ait un minimum de, j'allais dire, de convergence dans les pratiques. Regardez ce qui se passe au Kenya, c'est totalement anormal. Et quand vous allez dans un pays comme le Cap-Vert, vous avez l'équivalent d'une démocratie parfaite où les gens sont sérieux, ils respectent les institutions, ils respectent leurs citoyens. Et comment est-ce que vous voulez mettre ensemble ces gens-là avec un Lansana Conté et ainsi de suite? Je pense donc que c'est trop compliqué à faire. Et Kadhafi a pensé que la seule volonté politique suffisait, mais il n'y a pas d'union africaine possible sans les peuples. Et ça devrait commencer par le respect des peuples. Et malheureusement, comme on a à la tête de chaque État des gens qui sont plus ou moins des roitelets qui veulent se maintenir, voilà, et quand leurs intérêts sont en jeu, automatiquement, ils oublient les grands principes qui régissent, j'allais dire, la vie en communauté. Et aucun chef d'État, vous aurez remarqué que depuis le début des événements au Kenya, aucun chef d'État africain n'a pris la parole pour dire que c'est anormal que M. Kibaki ait été réélu dans ces conditions contestables et qu'il fasse tirer sur son peuple. Personne ne lui dit rien, parce que la plupart d'entre eux savent que demain, ils peuvent avoir à recourir aux mêmes méthodes, aux mêmes pratiques. Et donc, tout cela fait que une Union africaine, dans ce contexte-là, est une illusion. Je pense qu'il faut que les gens qui ont les mêmes valeurs se retrouvent. Ce continent est trop divers, j'allais dire, pour espérer faire une unité juste au nom de l'unité, quoi.
Quand on parle des États-Unis d'Afrique, c'est déclarations, c'est des mots vides de sens.
C'est complètement vide de sens parce que, voilà, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique, je veux dire que vous prenez les... Même en Europe, je ne parle pas des États-Unis d'Amérique, mais même en Europe, il y a un certain nombre de pratiques que ne peuvent pas se permettre certains dirigeants. Quand les Italiens prennent un certain nombre de positions par rapport, je ne sais plus si c'était aux Roumains ou à certaines nationalités parce qu'il y a eu des problèmes, on leur rappelle qu'il y a des règles communes. Vous ne pouvez pas faire ça, même si vous êtes chez vous. Or, les Africains, chacun se croit roi chez lui. Et en même temps, ils prétendent être dans un ensemble, mais c'est-à-dire qu'il faut sacrifier une partie de la souveraineté nationale au profit de, j'allais dire, des principes qui peuvent réunir les États. Et je pense honnêtement qu'on en est loin et que continuer à parler des États-Unis d'Afrique sans avoir, j'allais dire, un minimum de base. Les bases essentielles, c'est le respect des citoyens, donc le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie, du vote, des choix électoraux des citoyens. Si cela n'est pas respecté dans les pays, on ne peut pas les mettre ensemble. Hein, vous imaginez, on est dans les primaires aux États-Unis actuellement, et dans un État, quelqu'un ramasse les urnes, il annonce qu'il a gagné, et puis après on dit on est dans les mêmes États-Unis. Non, ce n'est pas possible, et je pense honnêtement que il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de volonté, et honnêtement, on n'a pas un leadership solide sur ce continent.
Il n'y a pas donc de gouvernement d'Union africaine qui aurait un impact sur des souverainetés nationales, tout ça n'existe pas.
Non, c'est-à-dire que malheureusement, c'est-à-dire la personnalité qui aurait pu, j'allais dire, mener tout ça et le faire avec... un certain succès, est à la retraite, fatigué, et on ne peut pas lui demander de tout faire, c'est Mandela. Parce qu'il a la légitimité. Si lui, il prenait la tête de ce genre d'initiative, peut-être que les gens, par respect pour lui, par déférence, accepteraient au moins d'avoir quelques règles communes. Cette union n'a pas la capacité de s'imposer une seule règle que tout le monde respecte, quelles que soient les circonstances.
Alors, Addis Abeba, ça va être encore un sommet pour rien?
Oui, honnêtement, c'est-à-dire que maintenant, là, on... Voilà, regardez, le président de la commission de l'Union lui-même est en train de dire « Mais cette histoire-là est une grosse mascarade. » Bon, ça a toujours été considéré comme un syndicat de chefs d'État. Et ça va le demeurer. Et considérons donc que l'actualité africaine ne se passe pas à Addis Abeba, elle se passe actuellement à Accra, où il y a une ferveur populaire, toutes les nations sont communies au football, c'est au moins le sport, et les règles sont claires et sont respectées par tous, mais à Addis Abeba, ces gens se réunissent... Je ne veux pas être trop dur, mais ils se réunissent pour eux-mêmes et pas pour leur peuple. Les peuples ne se sentent pas concernés.
Et pourtant, le thème choisi était très ambitieux, le développement industriel de l'Afrique, un thème voilà, qui devrait être largement occulté par les élections et par peut-être le dossier kényan. Donc le développement industriel de l'Afrique ne sera probablement pas discuté ou très peu.
Si, ça sera discuté, mais encore une fois, c'est-à-dire que pour parler de développement industriel d'un continent, même au niveau sous-régional, il faut avoir des règles communes qui font que si, par exemple, on décide de produire le ciment dans tel pays uniquement pour, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on choisit de produire le ciment, je ne sais pas, au Bénin, pour l'ensemble de la sous-région, il ne faut pas que demain, par un coup de colère du Nigeria ou d'un autre, le ciment produit au Bénin ne puisse pas aller dans les autres pays. Donc il faut pouvoir respecter des règles communes. Et effectivement, même les performances économiques des uns et des autres sont tellement dissemblables qu'on ne peut pas... C'est-à-dire qu'il y a trop de discours. Ce continent meurt d'avoir... j'allais dire cru au discours et rien qu'au discours. Mais je pense que, honnêtement, l'industrialisation du continent est une nécessité. Vous voyez les problèmes d'énergie électrique qu'il y a dans la plupart des pays. Si les États étaient plus organisés, s'ils étaient plus sérieux, on aurait pu imaginer même des structures qui alimentent un groupe de pays. L'ex-Zaïre, la RDC, a de quoi fournir de l'électricité à je ne sais combien de pays du continent, mais ce pays n'est pas capable de se fournir de l'électricité à lui-même. On est au lieu d'aborder des problèmes concrets et de les traiter à fond, et on fait de beaux discours, on annonce de belles perspectives, puis après, ça n'aboutit à rien. Il y a, je ne sais plus combien, 25 ans, ou même plus, qu'on parlait déjà de l'industrialisation de l'Afrique avec le plan d'action de Lagos. Je crois que ça devait être en 77. Hein. Et tout cela, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Voilà, c'est toujours des discours. Je pense qu'il faut que... Alors, évidemment, il ne faut pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Il y a des pays qui sont sérieux et une partie des pays d'Afrique australe est relativement sérieux et ils font des choses pour essayer de construire au moins un ensemble économique sous-régional viable. Mais il y en a qui n'ont aucune envie de respecter des règles communes. Et si les règles communes ne sont pas respectées, il n'y a pas d'industrialisation du continent possible. Chacun fera sa petite usine qui aura une capacité plus importante que ce que peut consommer son marché national. Et le moment venu, cette usine va cesser de fonctionner parce qu'elle n'est pas rentable, ainsi de suite, comme c'est le cas déjà.
Jean-Baptiste Placa, à propos du Kenya, que pensez-vous de la solution du partage du pouvoir?
C'est n'importe quoi, excusez-moi, je parle comme ça. Ce n'est pas sérieux. Je pense qu'Alpha Omar Konaré a eu raison de dire que le pouvoir n'est pas un gâteau. Les populations choisissent des gens pour les diriger. Si ceux qui ont été élus savent qu'au bout de leur mandat, s'ils veulent le voir renouvelé, ils seront sanctionnés s'ils n'ont pas bien travaillé, ils se mettront à travailler dans l'intérêt du peuple. Mais quand les gens savent qu'ils peuvent, confisquer le pouvoir, même si le peuple les désavoue, ils ne se soucient pas de ce peuple. Vous imaginez, il n'y a pas un ministre, espagnol, français ou autre, qui irait, un ministre de l'agriculture ou de la pêche, qui irait à Bruxelles et sans prendre en compte les intérêts des pêcheurs, des agriculteurs espagnols ou français. En Afrique, on a des dirigeants qui pensent qu'ils n'ont aucun compte à rendre à leur peuple, parce qu'ils savent que ce peuple ne peut pas les sanctionner. Le seul moyen de sortir ce continent du marasme, c'est quand même qu'au moins les gens qui ont des mandats pour gouverner les pays sachent que leur comment dit-on, leur survie, entre guillemets, au pouvoir dépend du bon travail qu'ils auront fait dans l'intérêt du peuple. Maintenant, quelqu'un a perdu, manifestement, Kibaki a perdu les élections, puisque même le président de la commission électorale a dit qu'on lui a forcé la main. Et un certain nombre de gens ont dit tout ce qu'il y a eu comme, comment dit-on, manipulation du vote. Et maintenant, il veut partager le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai volé et je vous demande de fermer les yeux sur le vol, sur le larcin, si c'est un larcin, et vous venez partager le fruit avec moi. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si les gens représentent leur peuple ou pas, et s'ils savent qu'ils ont des comptes à rendre à leur peuple. Le seul moyen d'avoir conscience qu'on a des comptes à rendre à son peuple, c'est de savoir que si le peuple, on n'a pas travaillé dans l'intérêt du peuple et qu'il vous demande de partir, vous ne pouvez pas vous accrocher en tuant des gens. Regardez, un millier de personnes disparues, mortes, tuées, massacrées maintenant dans ce pays qui est au bord de la guerre civile parce que M. Kibaki ne veut pas partir. C'est déconcertant et je pense que la solution du partage du pouvoir est quelque chose qui perpétue des pratiques, disons, qui elles-mêmes hypothèquent l'avenir de ce continent. On parle d'économie, on parle de développement industriel. Tout cela n'est pas possible s'il n'y a pas, c'est-à-dire, un leadership crédible. Les gens qui sont élus de manière incontestable, ils ont une légitimité qui fait que eux-mêmes se sentent obligés de travailler pour leur peuple. C'est ce qui manque sur ce continent. On a des dirigeants qui sont là pour eux-mêmes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Monsieur Kibaki, qu'est-ce qu'il peut nous dire maintenant, à 77 ans, qu'il a quelque chose à offrir à son peuple qu'il n'a pas pu lui offrir depuis, je ne sais pas, 4 décennies qu'il est aux affaires. Qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut donner à son peuple? Non, il veut rester au pouvoir. Et pour ça, il fait tirer sur les gens. Il n'y a pas d'alcool, pas de nivakine dans les hôpitaux, mais il y a des gaz lacrymogènes, il y a des balles pour tirer sur les populations.